George Kissing, le locataire de Maze Pond. Nouvelle. Harvey Munden s'était installé dans un coin du fumoir du club avec un cigare et une revue. À 11h du matin, un samedi, au mois d'août, il pouvait s'attendre à ne pas être dérangé. Et voilà que justement entre un fâcheux, un homme au long visage et au gilet jaune, terreur de tous les membres. Il se tint un instant devant l'une des tables, poussant du doigt les revues, surveillant de l'œil le solitaire. Harvey entendit un bruit de pas, leva les yeux et frémit. Le fâcheux commença l'attaque en forme. Harvey para les coups avec autant de fermeté que le permettait son caractère naturellement aimable. « Vous savez que le docteur Shergold est à l'agonie ?» dit l'homme imperturbable. « À l'agonie !» L'attention de Munden fut réveillée en sursaut, et la marée montante des commérages l'enveloppa. Oui, le grand docteur Shergold se mourait. Les journaux du matin publiaient des bulletins sur son état. Il semblait improbable qu'il durât jusqu'au lendemain. « Qui profitera de sa mort ?» demanda le fâcheux. « Son neveu, croyez-vous ? C'est fort possible. Un homme remarquable, ce... Un homme absolument remarquable. L'autre soir, je l'ai vu chez Lady Teasdale. Il parlait beaucoup. Sur ma parole, il rappelle Coleridge ou Macaulay, ou quelque chose comme ça. À coup sûr, conversation absolument brillante. Je ne me souviens pas de ce que c'était. Une machine littéraire. Une sorte de fantasia, vous saisissez ? Prodigieuse éloquence. À propos, mais c'est un de vos grands amis. Oh, nous avons été longtemps liés. Quelqu'un disait qu'il s'était lancé dans la médecine, fréquentait les hôpitaux ou quelque chose comme ça. Oui, il est à Guy. Pour couper court à cet interminable interrogatoire, Harvey jeta de côté la revue et parcourut des yeux le Times. Il lut les nouvelles concernant le célèbre médecin. Puis, comme son persécuteur s'apprêtait à revenir à la charge, il s'esquiva prestement. Vers midi, il était au pont de Londres. Il passa sur la rive de Surrey, puis, tournant immédiatement à gauche, s'engagea dans un des passages voûtés sous la station du pont. On eût dit l'ouverture de quelque monstrueuse caverne. De la lumière éblouissante du plein jour, il passa à l'obscurité dans une atmosphère humide. À droite et à gauche, une rangée de lanternes suspendues projetait une lumière jaune et morne, révélant l'entrée de vastes magasins occupés pour la plupart par des marchands de vin. Une odeur d'alcool dominait la vague senteur de moisissure. Des charrettes et des camions passaient, et le bruit des roues et des sabots géants éveillait le mugissement des échos. Au-dessus roulaient les trains avec un fracas de tonnerre. Les voûtes, éclairées seulement par des becs de gaz, semblaient s'étendre indéfiniment. Des formes vagues s'agitaient çà et là au milieu d'un amoncellement prodigieux de tonneaux, de caisses et de colis. Dans des salles divisées par des cloisons de verre, des hommes étaient assis et écrivaient. Une courbe du tunnel le faisait paraître beaucoup plus long qu'il n'était en réalité, et avant d'arriver au milieu, on ne voyait devant soi que l'obscurité toujours croissante. Alors, tout à coup, apparaissait l'issue, et au-delà, à la grande surprise, certes, de celui qui se serait aventuré dans ce passage pour la première fois, L'œil se reposait sur un groupe de magnifiques platanes, tout dorés au soleil d'août, un de ces contrastes si fréquents à Londres et qui ont un charme inoubliable pour ceux qui, de la cohue des grandes voies, passent dans ces oasis tranquilles. Transition de la caverne hurlante du commerce à cette solitude de feuillage inondée de soleil au milieu de vieilles maisons dont quelques-unes, aux toits bizarres, semblent prêtes à dégringoler. Les arbres sont plantés derrière l'hôpital de Guy et, non loin de là, se trouve une rue courte et étroite qui porte le nom de Maze Pond. Elle est composée en grande partie de maisons d'aspect fort ordinaire, à la façade tout unie, dont les chambres sont louées meublées aux étudiants en médecine. Harvey Munden s'arrêta devant une de ces maisons et fit résonner le marteau. Une jeune fille gentillette, à l'air assez hardi, vint lui ouvrir. Elle lui sourit familièrement. « Monsieur Shergold n'est pas chez lui, monsieur, » dit-elle, devançant sa question. « Mais il va rentrer. Voulez-vous l'attendre un instant ?»« Volontiers. » Comme quelqu'un connaissant la maison, il monta au premier et entra dans un petit salon. La jeune fille l'y suivit. « Je n'ai pas eu le temps d'enlever les objets du déjeuner, » dit-elle parlant très vite et avec quelque affectation. « Monsieur Shergold s'est levé tard ce matin. Il était près de 10 heures. Puis il s'est mis à écrire des lettres. Savait-il que vous viendriez, monsieur ?»« Non, je suis entrée à tout hasard pour voir s'il était au logis ou m'informer où on pourrait le trouver. Pour sûr qu'il sera ici à 12h30, car il m'a dit qu'il allait tout simplement prendre l'air. » Il n'a justement rien à faire à l'hôpital pour le moment. A-t-il parlé de s'en aller ? S'en aller ? La jeune fille répéta ces paroles avec vivacité, les yeux fixés sur le visage de son interlocuteur avec une insistance particulière. « Oh, il ne va pas s'en aller de ce moment-ci, je crois. » Munden l'examina à son tour avec une certaine curiosité, tandis qu'elle rassemblait les objets épars sur la table. Évidemment, elle se considérait comme une personne d'une certaine importance. Elle était assez bien faite, et ses traits avaient cette beauté gentille et triviale, si commune à Londres, chez les jeunes filles des classes inférieures. Genre de beauté qui tourne plus tard à la graisse et aux transpirations chroniques. Son teint prenait déjà une couleur terreuse et, quand ses lèvres s'entr'ouvraient, on voyait que ses dents commençaient à s'abîmer. Sa mise était négligée, sa chevelure témoignait d'une vaine tentative d'arrangement coquet et ses mains étaient sales. En veine de babiller, elle resta dans la chambre aussi longtemps qu'elle put. Mais Harvey Munden n'avait aucun goût pour ce genre d'entretien. Lorsque la jeune fille se fut retirée, il poussa un soupir de satisfaction et le sourire du philosophe qui a passé l'âge des juvéniles folies erra sur ses lèvres. Il alla jeter un coup d'œil sur la bibliothèque de son ami. Il y avait là peut-être une centaine de volumes. Les livres de médecine étaient en infime minorité. Apercevant une de ses propres œuvres, Munden la prit et la feuilleta avec distraction. Il fut surpris d'y découvrir une foule de notes marginales au crayon, et en les examinant, il put se convaincre que Shergold avait parcouru le livre avec soin pour en corriger le style. Certains adjectifs étaient supprimés, d'autres ajoutés. Des mots d'un usage général étaient remplacés par des vocables que seul pouvait suggérer un goût littéraire raffiné, et à certains endroits, la ponctuation même avait subi de minutieuses corrections. Cette manifestation singulière de zèle critique retenait encore son attention quand la porte s'ouvrit et Shergold entra. Un homme de 32 ans, court, disgracieux, mal mis, d'une physionomie aussi peu banale qu'on peut l'imaginer. Sa mine était assez sombre, et sur son front se creusaient des rides de soucis. Des yeux bleu clair modifiaient jusqu'à un certain point la dureté de la partie inférieure du visage. Lorsqu'il souriait, comme en ce moment, ses yeux exprimaient une innocence, une douceur de caractère incomparable. Quand il était troublé ou d'humeur mélancolique, il prenait sous ses épais sourcils un éclat étrangement douloureux. Son nez était court et plat, point vulgaire pourtant. Ses lèvres pleines et glabres laissaient supposer un penchant aux tristes rêveries. Toutefois, sans son front élevé, aucun observateur indifférent n'aurait songé à jeter un second regard sur cette physionomie, mais le haut du visage donnait à tout le reste une beauté intelligente, comme si un feu céleste l'eût illuminé. « Ah, vous voilà, misérable critique !» s'écria Harvey, se tournant vers lui le volume à la main. « C'est ainsi que vous traitez les ouvrages glorieux de vos contemporains !» Shergold rougit et ne répondit pas. « Je m'empare de ceci, » poursuivit l'autre en riant. « La chose mérite d'être étudiée d'un peu plus près. » « Mon bon ami, ne le prenez pas de mauvaise part. Je n'ai pas entendu par là critiquer. » Sa voix profonde et harmonieuse trahit ici un véritable embarras. « Comment ? N'est-ce pas précisément un trait semblable qui fut l'origine d'une querelle entre George Sand et Musset ? Oui, oui, mais George Sand était un gaillard si autoritaire et Musset une jeune personne si vaporeuse. Écoutez, je vais vous expliquer mon idée. Merci, dit Munden, je saurai découvrir cela tout seul. Et il mit le livre dans sa poche. Je venais vous demander si vous connaissiez l'état de votre oncle. Certainement. Quand avez-vous été chez lui pour la dernière fois? Été chez lui? Le regard de Shergold erra dans le vague. Oh, j'ai été causer avec lui il y a un mois environ. Vous êtes-vous séparés, bons amis? En excellents termes. Hier soir, j'ai été prendre de ses nouvelles. Par malheur, il ne reconnaissait plus personne. Mais la garde m'a dit qu'il avait prononcé mon nom, et même d'un ton affectueux. Parfait, cela. Ne feriez-vous pas bien d'aller là-bas cet après-midi? Peut-être, oui. Et cependant, voyez-vous, je ne veux à aucun prix être soupçonné de voleter autour de lui comme un oiseau sinistre. Peu importe, allez-y. Shergold montra une chaise à son ami. Asseyez-vous un instant, je viens d'avoir un entretien avec le docteur Salmon. Il est loin de m'encourager. Vous savez, je ne suis pas du tout certain que la médecine soit mon affaire. Pas du tout certain, affirma l'autre en souriant. À propos, j'ai entendu dire que vous aviez été dans le monde dernièrement. On vous a vu chez Lady Tisdale il y a quelques jours, paraît-il. Oui, eh bien, pourquoi pas? Était-ce le dépit causé par l'incident du livre? Shergold semblait incapable de fixer ses pensées sur quoi que ce fût. Il s'agitait sur sa chaise et jetait vers la porte des regards anxieux. J'ai été fort heureux d'apprendre cela, dit son ami. C'est un symptôme de bonne santé. Allez partout, voyez tout le monde digne d'être vu. On vous a fait parler, je crois. Qui vous l'a dit? Je crains d'avoir débité un tas d'inepties. La nuit qui suivit, j'eus une insomnie atroce et des frissons de honte me couraient. Quelqu'un avait mis sur le tapis Whistler, l'eau forte, que sais-je encore. Et j'avais là-dessus quelques idées dont je voulais débarrasser ma cervelle. Et après tout, c'est un plaisir de parler avec des gens intelligents. Henry Wilt était là avec ses filles. Charmante personne, vraiment. Et Mrs. Peters Rain, la connaissez-vous? J'ai simplement entendu parler d'elle. Une femme admirable, de l'esprit, du jugement. Sur ma vie, je ne sais point de délice comparable à celui d'écouter une femme vraiment douée quand elle est belle aussi. J'en frissonne de plaisir. Et quelle femme on rencontre aujourd'hui? Sans nul doute, le monde n'a jamais vu leur pareille. Je me fais une idée d'Aspasie, mais il y a aujourd'hui à Londres quantité de femmes plus grandes qu'elle. Il faut vivre avec les riches. Quelle erreur prodigieuse, quand on peut agir autrement, de se mêler à la plèbe des cerveaux étroits, quelques louables que soient les motifs qui vous y poussent. Depuis que je me suis mise à fréquenter chez les gens distingués, ma vie a triplé, que dis-je, centuplé de valeur. « Mon cher ami, remarqua tranquillement Munden, ne disais-je pas quelque chose d'à peu près semblable un certain jour, il y a 9 ans ?»« Ne parlez pas de cela, répliqua l'autre en agitant la main fiévreusement. Jamais plus n'évoquons le passé. » « Votre chambre manque d'air, » dit Munden en se levant. « Sortons et allons prendre le lunch quelque part. »« Oui, c'est cela. Le temps de me laver les mains. Je viens de la salle de dissection. » Les amis descendirent. Au pied de l'escalier, ils croisèrent la fille de l'hôtesse. Elle se retira, mais comme Shergold ouvrait la porte et faisait passer son compagnon, la voix de la petite se fit entendre. « Prendrez-vous le thé, monsieur Shergold ?» Munden se tourna vivement vers elle. Shergold ne la regarda pas, mais s'arrêta un instant, comme s'il examinait la question sans pouvoir la résoudre. Enfin, d'un ton amical, il répondit « Non, merci, je ne rentrerai que tard dans la soirée. » Et il sortit précipitamment. « Une bonne petite pièce, eh ?» observa Munden avec un clin d'œil à l'adresse de son ami. « Oh, une bonne fille, somme toute. Je suis très bien chez ces gens-là. Et pourtant, je ne serai pas fâché le jour où je m'en irai. » Elle n'était pas précisément réjouissante, l'histoire de Henry Shergold. À 22 ans, il se vit seul au monde, avec une instruction première incomplète, et 1 millier de francs en poche. Avec un peu plus d'ordre et un peu moins de foi orgueilleuse en de puériles chimères, il aurait pu prendre son rang dans le monde et l'avenir lui aurait souri. Mais Henry était un radical, avait un souverain mépris pour les privilèges et croyait en la perfectibilité humaine. Il obtint une place dans un bureau et se mit à écrire des vers, dont quelques-uns furent publiés, mais non payés, naturellement. 1 an plus tard, vint le jour fatal où il annonça à son ami Harvey Munden qu'il allait se marier. Sa future était la fille d'un ouvrier tailleur, une grande créature pâle et maladive de 18 ans, dont il avait fait la connaissance dans la boutique d'un marchand de tabac où elle était employée. Il allait l'épouser par principe, principe aiguisé par la passion, celle d'un jeune fou qui a vécu solitaire et connaît les livres, mais non les hommes. Harvey Munden se mit dans une belle colère, jura, sacra, prit les dieux à témoin, mais Shergold demeura inébranlable. La jeune fille, assurait-il, était tombée amoureuse de lui, tandis qu'il causait à travers le comptoir. Le bonheur de cet enfant était dans ses mains, il ne trahirait pas sa confiance. Elle était supérieurement douée, il ferait son éducation. Les deux amis se brouillèrent, et Shergold mena sa future à l'hôtel. Résultat, celui que toute personne sensée pouvait prédire. Le ménage fut un véritable enfer. Au bout de 3 ans, Shergold tenta de se suicider et eut, de ce fait, à comparaître devant le tribunal de simple police. Son parent, le célèbre docteur, qui jusqu'ici n'avait rien fait pour lui, offrit alors ses conseils et son assistance matérielle. Heureusement, l'enfant, seul fruit de cette union, n'avait vécu que quelques semaines, et la femme, bien que remuant ciel et terre pour la revendication de ses droits, était au fond si lasse de son mari qu'elle consentit à la séparation. Moins d'un an après, ils vivaient de nouveau sous le même toit. Les parents de Mrs. Shergold lui avaient représenté qu'un jour son pauvre diable de mari hériterait de la fortune de l'oncle, et elle fit tant et si bien qu'elle vint à bout de la résistance de Shergold. Il étudiait alors le droit aux frais de son oncle, qui s'empressa de l'abandonner de nouveau, et il en fut réduit à entrer comme commis chez un homme de loi, place qui lui donnait à peine de quoi vivre. Son oncle lui signifia un dernier adieu sur une carte postale où, au milieu d'un griffonnage illisible, on distinguait les mots « espèce d'imbécile » ou quelque chose d'approchant. Il gravit son douloureux calvaire pendant 3 ans encore, puis sa femme mourut. Un soir, après s'être enroué à crier comme une furie, parce que Shergold refusait de l'accompagner au café-concert, elle eut une attaque de nerfs sur l'escalier et, dans sa chute, se blessa mortellement. Shergold était libre, mais les ressorts de l'être physique et intellectuel étaient dans un piteux état. Ce ne fut qu'après un long séjour à l'étranger, aux frais de l'oncle, que sa santé se rétablit peu à peu. Il revint en Angleterre et entra comme étudiant à Guy, ce qui ravit le docteur Shergold. Ses frais furent payés, et on lui alloua une certaine somme pour vivre, une très petite somme. Peu à peu de vieilles connaissances le revirent, mais ce n'était que tout récemment qu'il avait répondu à l'invitation de gens d'une position sociale élevée rencontrés chez le docteur. Les épisodes mouvementés de son histoire, bientôt comptés dans le monde, faisait de lui un personnage intéressant, surtout auprès des femmes, et ses facultés remarquables furent reconnues de tous aussitôt que les circonstances lui permirent de les mettre au jour. Toutes les choses modernes excitaient son intérêt, et ses connaissances, grâce à une facilité merveilleuse, formaient le fond d'une conversation brillante qui charmait également ceux qui la comprenaient et ceux qui n'y entendaient rien. D'une timidité extrême, il savait, quand le sujet l'enflammait, parler avec force et conviction. En ce temps de bredouilleurs plus ou moins impolis, l'apparition d'un homme aux manières affables et sans ombre d'affectation devait nécessairement exciter la curiosité. Lady Tisdale, en quête de tout ce qui sortait de l'ordinaire, l'observa par hasard, un soir qu'à un dîner, il conversait avec son voisin de table. Plus tard, au salon, elle le flatta en lui accordant son attention, le stimula, fit prendre l'essor à ses talents de causeur et décida qu'il serait une physionomie, un trait caractéristique de ses soirées. Par bonheur, sa parenté avec le docteur Shergold était pour le monde une recommandation suffisante, Et Lady Tisdale chuchota dans le cercle des matrones que ce jeune homme hériterait du riche docteur, car celui-ci n'avait ni femme ni enfant. Son extérieur n'était pas bien séduisant, mais qui a belle fortune est toujours assez beau garçon. Et voici que maintenant le docteur se mourait. Le monde avait quitté la ville, mais Lady Tisdale, bien qu'entourée d'une véritable cour d'amis dans sa résidence du Hampshire, n'oubliait pas son protégé. Elle s'attendait avec joie à voir le jeune homme enfin tiré de sa servitude de misère. Un jour ou deux plus tard, c'était chose accomplie. Le docteur Shergold était mort, et un journal, à l'affût des nouvelles, annonçait que la plus grande partie de sa fortune passerait à M. Henry Shergold, qui, jusqu'à ce jour, s'était préparé à la carrière suivie par son oncle. Cet entrefilé sauta aux yeux de Harvey Munden, qui envoya un mot à son ami pour demander si la nouvelle était exacte. En réponse, il reçut une simple carte postale. « Oui, j'irai vous voir bientôt. » Mais Harvey avait l'intention de partir pour le lac de Côme, et comme ses affaires l'appelaient dans la cité, il traversa le fleuve et gagna Maze Pond. Cette fois encore, la porte lui fut ouverte par la fille de l'hôtesse. Elle se tint devant lui, le regardant dans le blanc des yeux, souriant, mais d'un air méfiant et rusé. « Monsieur Shergold est là ? » demanda-t-il d'un ton indifférent. « Non, il est sorti. » Il y avait dans cette réponse je ne sais quelle étrange rudesse. La jeune fille restait toujours devant lui, comme pour barrer le passage, et interrogeait obstinément ses traits. « Qu'en croyez-vous qu'il rentrera ? Je ne sais pas. Il n'a rien dit en s'en allant. » Une forme féminine apparut à l'arrière-plan. La jeune fille tourna la tête et dit avec brusquerie « Ce n'est rien, maman. Quelqu'un demande M. Shergold. » « Je vais là-haut, lui écrire un mot, » dit Munden d'un ton assez cassant. Elle se recula et lui livra passage, mais avec une évidente répugnance. Une fois dans la chambre, il vit qu'elle l'avait suivi. Il s'avança vers une table sur laquelle se trouvaient un buvard et une écritoire, et là il resta un instant comme s'il réfléchissait et hésitait. « Vous vous appelez Emma, je crois, » dit-il en regardant la jeune fille avec un sourire. « C'est mon nom. Eh bien, Emma, fermez la porte et causons un peu. Votre mère n'y trouvera rien à redire, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il d'un air sournois. « Ma mère ? Ma mère n'a rien à voir là-dedans. » Elle ferma la porte, mais non au loquet. « De quoi voulez-vous me causer ? » ?»« Vous êtes une jolie fille, Emma. On a du plaisir à vous regarder. Voilà ce que je me suis toujours dit quand vous m'ouvriez la porte. J'aimais votre ton aimable et respectueux, mais il me semble qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait aussi aimable qu'à l'ordinaire. Qu'est-ce que vous avez, Emma ? » La jeune fille ne quittait pas des yeux la physionomie de son interlocuteur. Son attitude révélait une observation soupçonneuse et pénétrante. « Je n'ai rien. Je ne sais ce que je pourrais avoir. » »« Et cependant, vous ne parlez pas d'une façon fort aimable, ni fort respectueuse. » Il s'arrêta. « Peut-être M. Shergold va-t-il vous quitter ?»«
Peut-être bien, oui. » »«
Et cela vous ennuie de perdre un locataire. » Il vit sa lèvre se plisser. Elle se prit à rire.
« C'est ce qui vous trompe. »
« Alors, qu'est-ce donc ?» Il se rapprocha d'elle et fit mine de passer un bras entreprenant autour de sa taille. Emma se recula vivement. «
Halte là ! s'écria-t-elle avec un regard superbe. « Je le dirai à Monsieur Shergold. »«
À Monsieur Shergold, pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut lui faire ?
Ça lui fait beaucoup. »«
Vraiment ?
Si donc, Emma, jamais je n'aurais cru cela. »«
Que voulez-vous dire ? »
répliqua-t-elle avec hauteur. « Gardez vos insolences pour vous, n'est-ce pas ? Si vous voulez le savoir, Monsieur Shergold va m'épouser. Et voilà. »
Le coup avait porté.
Harvey Munden restait là comme frappé de la foudre, mais il se remit avant qu'une parole échappât de ses lèvres.
« Ah ah, cela change la question. Je vous fais mes excuses. Vous ne voudriez pas brouiller deux vieux amis. »
La vanité désarma la méfiance de la jeune fille. Elle eut un ricanement de satisfaction.
« Ça dépendra de vous, si vous vous conduisez bien. »
« Oh, vous ne me connaissez pas. Vous le promettez, voyons. Pas un mot à Shergold. »
Elle le promit sous toute réserve, radieuse et triomphante.
« Merci, c'est gentil à vous. Il n'est pas nécessaire que je laisse un mot. Veuillez dire à Shergold que je pars en vacances et que je quitte l'Angleterre demain. Je voudrais le voir pourtant. Il se peut que je passe ce soir. » Si le temps me manque, veuillez lui dire encore qu'il n'oublie pas de m'annoncer l'événement pour que je puisse le féliciter.
Serait-il indiscret d'en demander la date approximative ?
Emma prit un air prude. Ce sera avant peu, pour sûr.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allons, je ne peux pas m'attarder davantage, mais je tâcherai de venir ce soir, et nous bavarderons un peu ensemble.
Il se mit à rire, elle aussi, et là-dessus ils se séparèrent. Ce soir-là, à 9 heures et quelques minutes, quand un dernier reflet de la lumière du jour s'attardait sur un ciel chargé de nuages, Munden se trouvait sous les platanes, près de l'hôpital de Guy, et attendait. Il avait arpenté Mace Pond, et s'était assuré que la fenêtre de son ami n'était pas encore éclairé. Selon toute probabilité, Shergold n'était pas au logis. Dans l'après-midi, il était passé à la maison mortuaire, mais on n'y avait pas vu Henry. Il laissa un billet, priant de le remettre si possible. Il annonçait qu'il serait à Mace Pond entre 9 et 10 heures. À 9 heures et quart, apparut un personnage bien connu, marchant lentement, la tête baissée. Munden s'avança et, en l'apercevant, Shergold lui saisit la main et la serra fiévreusement.
« Que je suis content de vous rencontrer, Munden. Venez, venez par ici. »
Il tourna le dos à Mace Pond.
« On m'a remis votre billet là-bas, il y a 1 heure ou 2. » Mais que je suis donc content de vous avoir trouvé ici, mon vieux.
Eh bien, l'heure de la veine a sonné pour vous, dit Harvey, s'efforçant, malgré l'obscurité, de lire sur les traits de son ami.
Il me laisse environ 2 millions, répondit Shergold d'une voix basse et mal assurée. On m'a dit qu'il y avait aussi des legs importants aux hôpitaux, ce qu'il était riche, hein?
Quand ont lieu les funérailles?
« Vendredi.
Où resterez-vous jusque-là ?
Je ne sais, je n'y ai pas encore songé. »«
J'irai à l'hôtel si j'étais à votre place, » dit Munden, « et j'ai une proposition à vous faire. Si j'attends jusqu'à samedi, viendrez-vous avec moi au lac de Combe ?»
Shergold ne répondit pas tout d'abord. Il marchait à grands pas, secouant la tête, balançant les bras d'une façon assez étrange. Ils entrèrent dans l'obscurité de la voûte sous la station du pont de Londres. À 7 heures, le grand tunnel était silencieux, sauf lorsque, là-haut, mugissait un train. Les magasins étaient fermés. Quelques êtres d'aspect peu engageant rôdait à la lueur douteuse du gaz, et de l'extrémité opposée arrivaient des clameurs d'enfants qui jouaient.
« Rien ne vous retient ici, » reprit Munden.
Non, non, je ne crois pas.
Sa voix trahissait l'agitation.
Alors vous m'accompagnez?
Oui, je vous accompagne.
Shergold prononça ces paroles avec une véhémence inutile et se mit à rire d'une façon bizarre.
« Qu'est-ce qui vous prend ? » lui demanda son ami.
« Rien, le brusque changement de situation, sans doute.
Marchons, allons n'importe où. »
« Je ne puis m'empêcher de me faire des reproches. Je devrais être calme, montrer un visage grave. Ce vieux bonhomme, qu'était-il pour moi ? Je lui dois de la reconnaissance.
Rien d'autre ne vous trotte par la tête ?»
Shergold leva les yeux et tressaillit.
« Que voulez-vous dire ? Pourquoi cette question ?»
Ils étaient arrivés dans un intervalle sombre entre deux lanternes. Après un instant de réflexion, Munden se décida à parler.
« J'ai été chez vous ce matin, et, de façon ou d'autre, j'ai engagé la conversation avec la jeune fille. Elle s'est montrée revêche, insolente, bref, ses manières m'ont étonné. Enfin, elle m'a annoncé une chose incroyable. Vous l'avez, prétend-elle, demandé en mariage. C'est sans doute un mensonge. En mariage, elle ! S'écria l'autre d'une voix enrouée et avec un rire faux.
Croyez-vous que ce soit vraisemblable, après tout ce que j'ai passé ?
Non, non, assurément, cela me stupéfiait. Mais ce que je désire savoir, c'est ceci. Peut-elle vous causer des ennuis ?
Que sais-je ? Les femmes mentent avec une impudence.
Elle peut causer du scandale, je suppose, ou menacer d'en causer pour me soutirer de l'argent.
« Mais y a-t-il sujet à scandale ?» demanda Harvey.
« Pas le moindre dans le sens que vous l'entendez.
Voilà qui me rassure. Mais elle peut vous causer des ennuis. Je vois que la chose ne vous étonne guère. Sans doute son caractère vous est connu. »
« Oui, oui, je le connais parfaitement.
Sortons au plus vite de cet enfer nauséabond. Je le hais.
Avez-vous dîné ? Moi, je n'ai pas faim. Si nous allions chez vous, nous sauterons dans une voiture traversant le pont. »
Ils poursuivirent leur marche en silence, et quand ils eurent retrouvé un cab, ils roulèrent vers l'ouest de la ville, parlant uniquement des affaires du docteur Shergold. Munden demeurait dans le quartier des Squares, non loin du British Museum. Il mena son ami dans une chambre confortablement meublée, dont les murailles disparaissaient presque derrière les livres et les gravures. Ils prirent place et fumèrent une bouteille de whisky à portée de la main. Il était clair pour Harvey que la réserve de son mari au sujet de la jeune fille cachait quelque mystère. Il était inquiet, mais ne voulait pas ramener l'entretien sur un sujet désagréable. Shergold buvait comme un homme très altéré, mais le whisky ne lui déliait pas la langue. Enfin, il tomba dans un mutisme absolu et se renversa sur sa chaise d'un air las.
« L'émotion a été trop forte pour vous, » remarqua Munden.
Shergold regarda son ami et un embarras douloureux se peignit sur ses traits. Puis, tout à coup, il se rejeta en avant.
« Munden, c'est moi qui ai menti. J'ai demandé la jeune fille en mariage.
Quand ?
Hier soir.
Pourquoi ?
Un moment de folie. »
Ils se regardèrent les yeux dans les yeux.
« Vous tient-elle de quelque façon ? » demanda Munden lentement.
« D'aucune, si ce n'est par cette offre imbécile. »
À laquelle elle vous a attiré ?
D'honneur, non. La faute est entièrement à moi. Sa conduite à mon égard n'a jamais été trop libre. Ses manières eux-mêmes n'étaient pas d'une intrigante. Je ne crois pas qu'elle eût jamais entendu parler de mon oncle avant hier soir, quand je lui contais tout. »
Il parlait avec volubilité, d'une voix forte, agitant les bras en manière d'impuissante protestation.
Son regard trahissait l'abattement le plus absolu.
« Eh bien, observa Munden, la folie, en tout cas, est passée à présent. Vous voilà revenu au sens commun, comme si rien ne s'était passé. Et vraiment, je suis tenté de croire que c'était là, au pied de la lettre, un accès d'aliénation mentale. Aviez-vous bu hier soir ?
Pas une goutte de quoi que ce soit.
Écoutez, je vais vous conter la chose. Avec les femmes, je me conduis comme un fou. Je ne sais d'où cela vient. À coup sûr, pas d'un tempérament sensuel et passionné. Le mien ne mérite pas ces qualificatifs. C'est pure sentimentalité, je suppose. Je ne puis avoir avec une femme des rapports d'amitié sans me lancer aussitôt dans une fade tendresse. Voilà la vérité. Si j'avais fait un mariage heureux, je ne crois pas que j'eusse été tentée de chercher ailleurs cette tendresse. La société d'une femme que j'aurais aimée et respectée m'eût suffi. Mais j'ai soif de l'affection, de la sympathie d'une femme. L'abominable erreur qu'a été mon mariage aurait rendu cynique la plupart des hommes. Pour moi, la leçon a été complètement perdue. Je veux dire que si je puis, avec un ami, parler des femmes d'une façon assez raisonnable, je suis absolument à leur merci une fois seule avec elles, à la merci de la créature la plus sotte, la plus vulgaire. D'ailleurs, n'en va-t-il pas de même avec les hommes en général ? L'homme d'ordinaire, comment se marie-t-il ? Croyez-vous qu'il choisisse délibérément ? Tombe-t-il amoureux au sens strict du mot de telle ou telle jeune fille déterminée ? Non, il obéit au hasard, il est emporté par la force irrésistible des circonstances. Sur 10 000 hommes, il n'en est pas un qui, lorsqu'ils songent au mariage, attendent l'épouse idéale, la femme qui pourra captiver son âme ou même ses sens. Les hommes se marient sans passion. La plupart d'entre nous n'ont, pour leur choix, qu'un cercle fort restreint. Le hasard de la vie journalière nous met en rapport avec celle-ci ou celle-là, et nous trouvons bientôt, ou que nous nous sommes compromis, ou que nous nous épargnerions bien des peines en nous établissant tout de suite, et que la première jeune fille venue fera aussi bien l'affaire qu'une autre. Bien souvent même, c'est la jeune fille qui décide, et non pas nous. Dans plus de la moitié des mariages, c'est la femme qui, en somme, a fait la demande. Elle se place dans le chemin d'un homme. D'elle dépend presque entièrement la question de savoir si l'homme la regardera comme la femme qui lui convient. Elle a mille moyens de se mettre en pleine lumière sans en avoir l'air. Et bien souvent, pour arriver au but, elle n'a qu'à rester au lieu de s'en aller. Écouter en souriant au lieu de prendre un air ennuyé, être au logis au lieu d'être sorti, et elle fait la cour à un homme. Devant le tribunal de l'absolue vérité, combien de maris devraient avouer qu'ils ont été fort surpris de se trouver engagés dans les liens du mariage? La volonté n'entre en scène qu'à certains moments bien courts. Sans doute, on la rend responsable. Et en un sens, elle est responsable. Mais dans la grande majorité des cas, cette prétendue volonté n'est qu'un instinct animal qui confirme la tyrannie des circonstances. Il y a quelque chose de vrai dans tout cela, fit son interlocuteur. Mais encore ne s'explique-t-on guère la conduite d'un homme qui, après une expérience épouvantable du mariage, après avoir recouvré sa liberté, après avoir été reçu à bras ouverts par le monde qui est le sien, après avoir hérité une fortune qui le rend indépendant, va s'offrir pieds et poings liés à une habile drôlesse dans un garni? C'est le cas spécial. Voyez plutôt la gradation des événements. Il y a des mois déjà que je m'aperçus que mes relations avec cette fille devenaient dangereuses. Par malheur, je ne suis pas un misérable, je ne puis regarder une femme comme un jouet, délicatesse fatale chez un homme non marié et sans fortune. De jour en jour, notre intimité augmenta. Elle venait dans ma chambre et me demandait si je ne désirais rien. Elle venait plus souvent qu'il n'était nécessaire, je dus bien le reconnaître. Lorsqu'elle me servait, nous causions parfois pendant une demi-heure. La mère, cela n'est pas douteux, observait le manège et l'approuvait. Emma devait trouver un mari, pourquoi pas moi, aussi bien qu'un autre. Ces femmes savaient que j'étais un être d'humeur douce. Jamais je ne leur cherchais querelle pour quoi que ce fût. J'étais reconnaissant pour la moindre attention. Précisément, l'espèce d'homme pour être prise au piège. Mais non, je ne veux pas prétendre que je fus leur victime. Ce serait une faible et indigne excuse. Qu'aurait fait un autre à ma place? Il aurait traité la jeune fille comme une servante et ainsi l'aurait tenue à sa place. Ou bien il l'aurait alarmée par une conduite indiquant des desseins tout autres que matrimoniaux. Pour moi, je n'eus pas le vulgaire bon sens de choisir entre ces deux parties. Je fis mon amie de cette jeune fille, je l'admis de plus en plus au rôle de confidente, jusqu'au moment fatal où je lui contai mon histoire. Oui, je fus assez idiot pour lui tout raconter jusque dans les moindres détails. Pouvez-vous concevoir une telle aberration? Cependant, c'est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Un soir, nous étions seuls au logis. Après avoir, pendant une demi-heure, essayé de travailler, je reconnus que c'était impossible. La mère était sortie, j'entendais Emma aller et venir en bas. J'étais seule, démoralisée, j'avais besoin de parler de moi-même, à quelqu'un qui me prêterait une oreille complaisante. Je descendis donc et pris un prétexte pour entamer une conversation au salon. Elle dura 2 heures. Nous causions encore quand la mère rentra. Je ne pus me persuader, même alors, que j'avais de l'affection pour Emma. Son langage trivial, ses sentiments vulgaires me choquaient. Mais elle était femme, sa voix était douce, son regard sympathique, et cette soirée me fit du bien. Vous savez ce que je vous disais récemment. J'ai peur des femmes de culture raffinée. Je suis leur égale, je le sais, je puis converser avec elles. Leur société a pour moi un charme infini. Mais quand je songe à l'intimité avec l'une d'entre elles, peut-être est-ce l'effet des longues années de vie de bohème. Peut-être suis-je condamné à descendre d'un degré dans l'échelle sociale. Je ne puis m'imaginer faisant la cour à une des jeunes filles que je rencontre dans ces grandes maisons, demandant sa main. Non, non, je ne puis. Vous vous déferez de cette gêne, dit Munden. Je l'espère, je veux l'espérer. Ne serait-il pas criminel de ne pas essayer, du moins maintenant que je possède la fortune? J'ai été torturée aujourd'hui, comme une âme à qui un moment de faiblesse charnelle a fait perdre son salut. Vous pouvez vous imaginer mes souffrances. Elles m'ont amené à la résolution de mentir, de nier avec une énergie sauvage que j'ai promis mariage à Emma, à nier tout, quitte à supporter les conséquences. Et la résolution est excellente, mon cher ami, tenez-vous-y. Mais vous ne m'avez pas encore conté comment vous avez commis la plus folle de toutes les folies. Vous dites que la demande a été faite hier soir? Oui, et simplement pour le plaisir d'apprendre à Emma, quand elle m'eut accepté, que j'avais 2 millions. Vous ne me comprenez pas, non? Je crois que le changement de fortune m'avait comme enivré. J'arrivais dans un état d'exaltation qui me poussa aux pires extravagances. Je sentais un désir irrésistible d'être bon, de répandre le bonheur autour de moi, de partager ma joie avec d'autres. Si j'avais eu la fortune du docteur dans ma poche, j'aurais distribué des billets de 100 francs. « Vous vous êtes contenté, dit Munden en riant, de donner un billet à ordre représentant l'héritage tout entier. Oui, mais comprenez donc, Emma vint dans ma chambre à l'heure du souper, et comme d'habitude nous causâmes. Je ne lui dis pas un mot de la mort de mon oncle. et pourtant je sentais que la nécessité de tout révéler s'appesantissait fatalement sur moi. Il y avait dans mon esprit un conflit entre le sens commun et cette terrible sentimentalité qui est chez moi un mal incurable. Lorsque Emma monta après le souper, elle m'apprit que sa mère était allée au théâtre avec un ami. « Pourquoi ne l'avez-vous pas accompagnée ? » dis-je. « Oh, je ne vais nulle part. » « Mais après tout, » repris-je en manière de consolation, « le mois d'août n'est pas précisément la saison où le théâtre est agréable. » Elle en convint. Mais il y avait une exposition à Earl's Court. Elle en avait beaucoup entendu parler et désirait y aller. « Si nous y allions tous deux un de ces soirs, qu'en dites-vous »« Vous voyez, idiot, et ce fut plus fort que moi. Ma langue prononça ces mots imbéciles en dépit de mon cerveau. »« Très bien, si j'avais voulu ce que tout homme aurait voulu en pareil cas. Mais je ne le voulais pas, et elle le savait. » Elle me regarda, et alors, eh bien, l'instinct de la brute fit le reste. Non, pas l'instinct tout seul, mais compliqué de ce désir idiot de voir l'expression de son visage, d'entendre les paroles qu'elle prononcerait quand elle saurait que je venais de lui faire un cadeau de 2 millions. Vous ne comprenez pas ? Ainsi, un cas de psychologie morbide. Et mon égarement me rendit heureux. Pendant 1 heure ou 2, je crus aimer la jeune fille de toute mon âme. Et puis ce bonheur persista. J'arpentais ma chambre de long en large, faisant des plans d'avenir. Je l'instruisais, je faisais son éducation, et ainsi de suite. Je reconnaissais en elle une foule de qualités admirables, vraiment féminines. J'étais amoureux de cette femme, et voilà. Munden resta un moment rêveur, puis il posa sa pipe sur la table. « Comptez-vous retourner à votre logement ?»« Non, non, je suis revenu à la raison. Je vais passer cette nuit à l'hôtel et j'envoie immédiatement chercher toutes mes affaires. »« À la bonne heure, et samedi ou vendredi soir, si vous voulez, nous partons. » Shergold était tremblant de joie. « Mais ce mensonge m'est insupportable, » dit-il. « J'indemniserai la jeune fille. Voyez-vous, en me sauvant, j'avoue qu'il y a dans mon cas quelque chose qui n'est pas correct. Je verrai un homme d'affaires, et je remettrai l'affaire entre ses mains. » « Comme vous voudrez, mais laissez à votre conseil l'estimation des dommages et intérêts. »« Dommages et intérêts ?» Shergold sembla ruminer le mot. « J'espère qu'elle ne va pas me traîner devant un tribunal, me couvrir de ridicule en public. S'il en était ainsi, adieu de toutes mes espérances. Je ne pourrais plus reparaître dans le monde après un tel esclandre. Je ne vois pas pourquoi, mais votre conseil arrangera probablement l'affaire. Ils ont des procédés à eux, » ajouta Munden sèchement. Le lendemain, de grand matin, Shergold envoya un télégramme à l'adresse de son hôtesse de Mace Pond. Il lui annonça qu'il allait s'absenter 1 jour ou 2 pour affaires. Le vendredi, il assista aux funérailles de son oncle, et le soir même, il quittait Charing Cross avec Harvey Munden, en route pour Combe. Là, 15 jours plus tard, Shergold reçut de son homme d'affaires une communication qui mit un terme à son calme apparent et à sa feinte gaieté. Car assurément, elle n'était que feinte. Harvey Munden en était convaincu. On reconnaissait dans tout ce qu'il disait et faisait les symptômes manifestes d'une conscience troublée, ou du moins d'une nervosité à l'état aigu. Enfin, il se décida une fois encore à confesser franchement sa faiblesse. C'est le diable, mon cher. Elle ne veut pas accepter l'argent. Elle a pris un avocat et va me traîner en justice. J'ai autorisé Rickett à lui offrir jusqu'à 125 000 francs. Rien à faire. Il dit que son conseil a fait évidemment miroiter à ses yeux l'espérance de dommages intérêts énormes, et puis elle veut avoir le plaisir de me rendre à la fable de la ville. »
C'en est fait de moi, Munden. Mes espérances se sont évanouies comme, vous savez, l'expression de Dante. Il fumo in aere ed in aqua la ciuma.
Fumant un cavour, Munden était étendu dans l'ombre de la pergola, et il gardait un silence qui semblait dire, ne prêchons pas davantage dans le désert.
Que me conseillez-vous?
À quoi bon un conseil à un homme fait pour être berné?
Parbleu, laissez cette... Poussez les choses au pis, qu'importe!
Shergold fit la grimace. N'oublions pas que je suis seul coupable en tout ceci.
Oui, aussi coupable que de n'être pas mort le jour de votre naissance.
J'élèverai l'offre.
Parfait, offrez 250 000. Le jury lui donnera sans doute 5 000.
Mais le scandale, le ridicule.
Faites-lui face bravement. Une bonne affaire bien bruyante est probablement la seule chose qui pourra vous enseigner la sagesse et vous sauver la vie.
C'est une façon d'envisager la question. Je suis presque porté à croire que c'est la véritable. On ne le vit plus pendant le reste du jour. Le soir, de 9 à 10, il fit une excursion sur le lac avec Harvey. Mais il ne pouvait parler. Ses yeux bleus étaient perdus dans une mélancolie étrange, mêlée d'inquiétude. Un sillon se creusait entre ses sourcils. Il faisait des gestes brusques, nerveux, comme si, dans le fort intérieur, il s'adressait des reproches. Le lendemain matin, quand Harvey Munden sonna pour le déjeuner, un garçon lui apporta un billet. Il reconnut l'écriture de Shergold. Quelques lignes écrites en toute hâte. « Je pars pour Londres. Soyez sans inquiétude. Je veux uniquement détourner le danger d'une publicité déshonorante. Je ne peux vivre sous cette menace. J'ai une idée, et dans quelques jours, vous aurez de mes nouvelles. »
Munden ne sut jamais quelle était cette lumineuse idée. Une lettre de Shergold lui parvint au bout d'une dizaine de jours. Elle lui annonçait le mariage prochain de son ami et le départ des nouveaux mariés, moins d'une semaine après la cérémonie, pour un voyage autour du monde.
Harvey ne répondit pas à cette lettre, qui d'ailleurs n'indiquait pas d'adresse. Un jour de novembre, au club, il fut accosté par son fâcheux habituel.
« Votre ami Shergold est donc mort ?»«
Mort ? Mais oui, on en parlait hier, chez Lady Teasdale. Il est mort il y a quelques jours à Calcutta, dysenterie ou quelque chose comme ça. Sa femme venait de câbler la nouvelle à je ne sais pas qui. »